Les informations avec Thomas Cluzel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Antoine Genton, bonsoir à toutes et à tous. Un plan visant à améliorer l'accès aux médicaments en France, comprenez à lutter contre leur pénurie, a été annoncé ce matin par la ministre de la Santé pour l'essentiel. Il devra permettre une meilleure circulation de l'information et une diversification des procédures d'approvisionnement. La fin prochaine d'une bataille judiciaire vieille de 10 ans sur fond de déchirement familial. Ce matin, les parents de Vincent Lambert, devenu malgré lui le symbole du débat sur la fin de vie en France, se sont résignés à la mort inéluctable de leur fils. Et puis au lendemain de sa victoire, sans appel au législatif grec, le chef de file des conservateurs, Mitsotakis, a été investi aujourd'hui Premier ministre, tournant ainsi la page de l'ère Tsipras dans un pays décidément en soif de renouveau. Parce que près d'un Français sur quatre s'est déjà vu refuser la délivrance d'un médicament ou d'un vaccin pour cause de pénurie, la ministre de la Santé Agnès Buzyn présentait ce matin un plan visant à mieux gérer le circuit du médicament, comprenez, de l'usine jusqu'à la pharmacie. Il faut dire que le sujet avait été au fil des mois extrêmement médiatisé en raison notamment de ruptures portant sur des produits d'utilisation courante ou de première importance comme des antibiotiques ou des vaccins, mais aussi des anticancéreux ou bien encore des traitements contre la maladie de Parkinson. Lisa Guyenne, bonjour.
Bonjour.
Alors, si les tensions d'approvisionnement des médicaments se sont amplifiées ces dernières années, on parle de 20 fois plus de pénuries entre 2008 et 2018. On en connaît aussi les raisons, et en l'occurrence, elles sont multiples, de la hausse de la demande mondiale à la trop forte concentration des sites de production, passant par des stratégies financières contestables. Reste à savoir donc si la feuille de route dévoilée ce matin par le gouvernement, Lisa, est de nature à lutter efficacement contre ces dérives.
En tout cas, la tâche s'annonce ardue face à une industrie pharmaceutique dont le fonctionnement reste souvent obscur. La première mesure annoncée par la ministre consiste donc à renforcer la transparence dans la chaîne de production, mesure nécessaire pour comprendre toutes les raisons de la pénurie, selon Gérard Raymond, le président de France Asso Santé, qui défend les droits des patients et des professionnels.
Les industriels qui, de par la loi, devraient évidemment publier leur plan de pénurie, ne le font pas. Nous ne sommes pas au courant, nous, association de patients, des plans de pénurie qui devraient être signalés par les industriels. Donc, bien voilà quelque chose qu'il faudrait maintenant sanctionner si ce n'est pas fait.
Ces sanctions, la ministre n'en parle pas clairement, elle parle plutôt d'incitation financière et fiscale pour relocaliser la production en Europe, car aujourd'hui l'immense majorité des médicaments est produite en Asie ou aux États-Unis, et en cas de problème sur place, eh bien c'est notre système à nous en France qui est impacté.
On voit bien que le sujet n'est pas simplement franco-français, il est aussi européen, il est mondial. Donc comment on peut redonner aux industriels l'envie de refabriquer des molécules de base sur le territoire européen ? Comment mettre aussi en place une nouvelle gouvernance ? Et ça, je pense que c'est primordial.
Le rôle de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, sera dans tous les cas renforcé. La feuille de route, quant à elle, doit être précisée à la rentrée prochaine.
Merci Lisa Guyenne. Après des années de combats judiciaires, les parents de Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans, se sont finalement résignés ce matin à la mort inéluctable de leur fils, dont les traitements, rappelons-le, ont été à nouveau interrompus la semaine dernière. La mort de Vincent Lambert est médicalement irréversible, ont notamment affirmé leurs avocats, qui parlent désormais d'une obstination déraisonnable à poursuivre d'autres recours. Florence Turm, bonjour.
Bonjour.
Alors hier encore, pourtant, en arrivant au CHU, le père de Vincent Lambert avait dénoncé un assassinat déguisé en cours, mais depuis aujourd'hui, donc, la résignation semble l'avoir emporté.
Oui, résignation, c'est effectivement le terme employé par les parents de Vincent Lambert, qui ont multiplié les recours et les actions en justice pour s'opposer à l'arrêt des traitements préconisés par l'équipe médicale du CHU de Reims, où leur fils était hospitalisé depuis 2008 après cet accident de voiture qui l'avait rendu tétraplégique et plongé dans un état végétatif. Les avocats du couple Lambert ont confirmé qu'ils ne déposeraient pas d'autres recours dans la mesure où l'état de Vincent Lambert a évolué au cours du week-end, que son décès est désormais médicalement irréversible. C'est la conséquence de l'arrêt des traitements, en l'occurrence l'alimentation et l'hydratation par sonde. Arrêt des traitements rendu possible par une décision de la Cour de cassation du 28 juin dernier et effectif depuis mercredi. Les médecins ont donc mis parallèlement en place une sédation profonde et continue, comme le prévoit la loi Leonetti. Un nouveau recours pour demander la remise en route de l'alimentation et de l'hydratation n'aurait désormais plus de sens au regard des dispositions même de cette loi Leonetti, indique maître Jean Payot, qui a décidé de ne pas s'associer au rassemblement initialement prévu cet après-midi à Paris et finalement annulé par le collectif Je soutiens Vincent. Le temps est aujourd'hui au recueillement face à cette mort provoquée et profonde profondément injuste pour laquelle nous demanderons des comptes plus tard, indique l'avocat. Allusion à la plainte déposée par les parents de Vincent Lambert pour tentative d'homicide en bande organisée. Une plainte au pénal qui a, cela dit, peu de chances d'aboutir dans la mesure où les avocats avaient déjà déposé une plainte similaire contre le précédent médecin de Vincent Lambert. La Cour de cassation a également tranché sur ce point et estimé qu'il n'y avait pas matière à poursuivre.
Merci Florence Turme. Il ne restait aujourd'hui que quelques centaines de copies du baccalauréat retenues contre 10 000 ce week-end. Pour autant, même si en Ile-de-France, par exemple, l'Assemblée générale des correcteurs grévistes du baccalauréat a finalement décidé ce matin de rendre les copies, certaines questions se posent encore et en particulier celle de savoir si des recours seront ou non engagés devant les tribunaux administratifs pour annuler les notes provisoires attribuées lors des jurys la semaine dernière. En clair, nombre de parents pourraient vouloir faire valoir leurs droits pour échapper à cette situation discrétionnaire. Sauf que chaque cas est évidemment particulier. Dès lors, quelles sont les bonnes réponses à apporter? Difficile manifestement de le savoir. Je vous propose d'écouter Rodrigo Arenas, coprésident de l'AFCPE, joint au téléphone par Hakim Kasmi.
On peut pas savoir combien d'enfants vont être concernés. Tout ce qu'on sait, c'est que les standards de nos départements sont en train d'exploser, notamment parce que des parents s'inquiètent et ou sont s'indignent ou alors contestent les résultats pour leurs enfants, en particulier pour ceux dont la décision de prendre une note de contrôle continu plutôt qu'examen ou inversement, en fait, défavorise leur enfant par rapport à celui d'à côté. Donc on est vraiment dans une situation où l'inégalité de traitement se matérialise de façon concrète par ces obtentions au nom du bac, de certains qui passent le rattrapage alors qu'ils n'aurait pas dû si une autre forme de notation aurait été prise en compte, c'est-à-dire contrôle continu ou note d'examen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans certains établissements, c'est vraiment le bouchon. Et là, aujourd'hui, nous, on arrive plus à faire face. C'est pour ça qu'on va mettre en place dès demain une ligne téléphonique. Mais c'est simplement, on va mettre des parents bénévoles pour orienter les enfants, en sachant que si démarche en justice il doit y avoir, il faut qu'elle s'accompagne évidemment d'un avocat. Et que là, on a une deuxième rupture d'égalité, c'est que ce sont simplement ceux qui auront les moyens de se doter d'un conseil juridique de cet ordre-là qui pourront le faire, parce que c'est pas gratuit d'aller en justice dans notre pays. Donc aujourd'hui, on est en train de se dire, est-ce que le bac finalement va pas s'acheter pour certains élèves qui auront les moyens, en tout cas leurs familles auront les moyens de se payer un avocat, et celles qui ne l'auront pas.
Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, il répondait à Hakim Kasmi. L'Iran a franchi un nouveau cap dans son désengagement de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire en annonçant aujourd'hui avoir enrichi de l'uranium au niveau prohibé de 4,5% et ce en réponse au rétablissement des sanctions américaines. Le 8 mai dernier, déjà, Téhéran avait annoncé qu'il avait commencé à s'affranchir de certains engagements pris à Vienne dans l'espoir de forcer les parties restantes à l'accord, la Chine, la Russie et l'Union européenne, de l'aider à contourner les sanctions américaines. En vain, aussitôt, l'Union européenne, qui continue de priver l'Iran des bénéfices économiques qu'il attendait de ce pacte, s'est dite préoccupée tout en exhortant fortement Téhéran à cesser ses activités. Une page s'est définitivement tournée en Grèce cet après-midi avec la passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant de gauche, Alexis Tsipras, sèchement vaincu hier aux élections législatives, et son successeur de droite, Kyriakos Mitsotakis. Reste à savoir si cette nouvelle page permettra pour autant d'écrire une nouvelle histoire dans ce pays terrassé par des années de cure d'austérité. Car si les Grecs ont certes choisi de régler leurs comptes avec celui qui leur avait promis de bouter les créanciers hors de Grèce avant d'être rattrapés par l'exercice du pouvoir, rien ne dit que les 10 créanciers permettront au pays le plus endetté de la zone euro de négliger à présent cette politique d'austérité. Et pour une raison simple, si les coupes massives au niveau des revenus et des prestations sociales ont permis d'assainir le budget, les centaines de milliards d'euros débloqués par les marchés financiers et les taux d'intérêt qu'ils ont générés représentent, eux, une dette encore colossale. Alors le chef de la file de droite, désormais au pouvoir, a lui promis de réduire les impôts. Alors évidemment, on imagine que cette promesse n'était pas pour déplaire aux électeurs. La classe moyenne, lassée, sinon meurtrie par une décennie de privation et de ponction fiscale, reste à savoir si elle est ou non compatible désormais avec les exigences de l'UE. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être la réunion des ministres des Finances de la zone euro aujourd'hui permettra-t-elle d'y voir un peu plus clair sur cette question, mais d'ores et déjà, Marie, ce qui semble à peu près acquis, eh bien c'est que le nouveau Premier ministre grec de droite bénéficie d'un capital de confiance plus élevé que son prédécesseur.
Oui, et ce capital confiance, il le tient d'abord de la réaction des marchés financiers à son élection. Quand les marchés ont confiance, les taux baissent. Or aujourd'hui, les emprunts grecs sur 10 ans ont atteint leur plus bas niveau, 2% contre 4% il y a un an, et 40% au plus fort de la crise grecque. Alors si les taux sont bas, cela veut dire que le nouveau gouvernement peut envisager d'avoir recours à l'emprunt pour financer son programme et notamment les baisses d'impôts promises. Cela permettrait de desserrer l'étau de la stabilité fiscale, dit le nouveau Premier ministre grec, qui, à la différence d'Alexis Tsipras, sait prendre les pincettes orales nécessaires pour ne pas froisser ses partenaires européens. Ce qui est crucial, car comme le leader de Syriza avant lui, Kyriakos Mitsotakis est sous surveillance. La Grèce n'est plus sous assistance, mais tous les 6 mois, ses créanciers de la zone euro jugent sa politique sur la base d'un rapport écrit par la Commission. Celui qu'ils examinent aujourd'hui constate que côté excédent budgétaire, la Grèce fait mieux que les objectifs, mais regrette qu'Alexis Tsipras ait utilisé cette manne financière pour baisser la TVA sur les produits de première nécessité, augmenter les retraites et permettre l'échelonnement des impôts dus au fisc. Or, Nouvelle Démocratie a voté pour ces mesures. Le nouvel gouvernement ne devrait donc pas les retirer. Et il prévoit, en plus, vous le disiez, d'autres baisses d'impôts. Alors ça pourrait coincer, mais comme ces baisses d'impôts s'appliqueront en partie aux entreprises, il est fort possible qu'elles soient considérées comme favorables à la croissance et donc acceptées sans heurts. Ce qui paraît clair déjà, c'est qu'avec cette alternance, le degré de liberté économique de la Grèce vis-à-vis de ses créanciers privés et publics est déjà en train d'évoluer.
Merci Marie Viennot. Le gouvernement de Londres est toujours à la recherche du ou des responsables des fuites dans la presse de câbles diplomatiques dans lesquels l'ambassadeur britannique aux États-Unis aurait entre autres qualifié l'administration de Donald Trump d'instable, d'inepte, d'incompétente, susceptible de s'écraser en flammes et de s'achever dans la disgrâce. Des révélations pour le moins embarrassantes au moment même où Londres chercherait à sceller un accord de libre-échange post-Brexit avec son allié historique. Elle porte haut et fort ses attaques contre l'administration américaine. Elle, c'est la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, laquelle s'est dite aujourd'hui choquée par les conditions de détention des migrants aux États-Unis. Voilà plusieurs jours déjà que des ONG, des élus démocrates et même un rapport interne émanant de l'administration Trump dénoncent tour à tour les conditions indignes en vigueur dans certains centres américains et en particulier le sort des enfants particulièrement préoccupant. La dureté de la politique migratoire de Donald Trump n'a en revanche pas grand-chose à envier au contrôle mené aux portes de l'Europe. La multiplication des incidents entre le gouvernement italien de coalition et les organisations humanitaires en Méditerranée suffit à en témoigner. Ce matin, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape a tenu à célébrer une messe pour les migrants. Personne ne peut s'exonérer de la responsabilité d'aider les migrants, a notamment déclaré le Saint-Père dans son homélie. Aux Philippines, depuis le début, voici 3 ans maintenant, d'une campagne de lutte contre le narcotrafic, les exécutions extrajudiciaires se poursuivent en toute impunité au nom de la guerre déclarée à la drogue par le président Rodrigo Duterte. Des dizaines de milliers de trafiquants et toxicomanes présumés ont d'ores et déjà été abattus sous le couvert d'opérations de police. Un véritable massacre dont se désintéresse assez largement d'ailleurs la presse locale, d'autant que cette répression remporte en réalité un franc succès auprès de nombreux Philippins. Quoi qu'il en soit, et dans un nouveau rapport publié aujourd'hui, Amnesty International dénonce, elle, ces exactions extrajudiciaires et réclame une enquête des Nations Unies. Je vous propose d'écouter Morgane Esch, responsable Asie d'Amnesty France, jointe au téléphone par Capucine Jaffé.
La police nationale, elle, dénombre 6600 victimes. Nous estimons que le nombre d'exécutions a dépassé les 20 000 personnes. Il y a environ 6 personnes par jour qui sont tuées. Alors c'est un peu tôt pour parler de crimes contre l'humanité, puisqu'il faut qu'une enquête soit menée, il faut qu'il y ait des preuves qui soient portées devant la Cour pénale internationale, ce que nous souhaitons. Mais effectivement, nous pensons que ces crimes peuvent relever de crimes contre l'humanité, puisqu'il y a à la fois des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements, enfin toute une série de crimes qui relèvent des crimes contre l'humanité. Nous pensons qu'il y a un agenda derrière tout ça de la part du président Duterte. Cet agenda, c'est à la fois le rétablissement de la peine de mort, l'abaissement de l'âge de la criminalisation des mineurs de 15 à 12 ans et enfin le rétablissement de la loi martiale.
Au fil de l'énumération de la longue liste de violences commises par ces soins, l'effroi se dessinait ce matin sur les visages des personnes présentes dans la salle d'audience du tribunal. La Cour pénale internationale a reconnu coupable aujourd'hui l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des massacres de civils et des viols de jeunes filles enrôlées comme enfants soldats en République démocratique du Congo. L'homme qui est apparu devant les juges le visage fermé entendra sa peine lors d'une prochaine audience. L'ex-chef de guerre guerre en cours, la prison à perpétuité. On termine avec un mot de météo. 9 départements au total du sud-ouest sont toujours placés en vigilance orange pour risque d'orage. Demain, le temps sera sensiblement le même, ensoleillé donc sur l'ensemble du pays, sauf dans le sud-ouest où il s'annonce orageux. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Benjamin Ducy.